One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes.
Je suis Patrick Sabourin, membre de l'équipe de recherche en phénomènes paranormaux APA Paranormal, et je suis de retour parmi vous au 96.9 de Lévis avec l'émission Projet Anubis. Bonjour à tous, très heureux d'être de retour parmi vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait dans le passé quelques années, justement avec cette émission Projet Anubis au CJMD 96.9 de Lévis. Je suis vraiment content d'être de retour. Merci à Carole et à toute l'équipe. On avait des projets de notre côté, ce qui a fait en sorte qu'on n'avait pas pu renouveler, faire une nouvelle année. Donc, on est là. Je voudrais commencer l'émission en remerciant Éric Richard. Dans le fond, c'est celui qui a fait le thème de l'émission. C'est le même thème qu'on avait les autres années. Je veux remercier aussi Dominique Desormeaux du 13 Spirit Paranormal, qui lui a créé le logo du projet Anubis, que vous pouvez voir quand que c'est nos émissions qui vont être diffusées. C'est le logo de Dom. Dom va être très souvent à l'émission, ça va être un collaborateur. Je veux remercier aussi ceux qui vont participer. Dominique Desormeaux, JL, Cass, qui lui est enquêteur en Europe. Il y a toujours, lui, comme je disais tout le temps, c'est une tête, il fabrique des appareils qui nous permet d'évoluer dans le monde du paranormal. Donc, on le remercie déjà. Il va y avoir beaucoup de personnes. Cette année, je veux avoir beaucoup de gens de diverses équipes les expériences de chaque personne sont importantes. Chaque personne a une façon de travailler qui peut éclairer d'autres. Il y en a qui ont des questionnements sur certains certaines situations, d'autres peuvent les éclairer au travers de ça. Donc le paranormal, c'est pas une science qui s'étudie. Il y a pas vraiment de cours qui est donné. On apprend sur le terrain et on y va avec ceux qui ont l'expérience et qui travaillent de façon sérieuse. Donc cette année, je veux parler de certaines enquêtes qu'on a fait qui nous a marqué au fil du temps. Il faut savoir qu'on a plus de 300 enquêtes. On est là depuis 2006. On est quand même, je peux considérer à Pas-Paranormal comme une bonne référence ici au Québec. Quand on a commencé, il y avait quelques équipes qui, pour la plupart, ne sont plus là. Nous, on a traversé les tempêtes de gens, d'organismes qui ne croyaient pas en notre travail. Et notre sérieux a fait en sorte que... Il faut savoir qu'au départ, on était pas question d'avoir une grosse équipe. On faisait ça seulement pour moi et ma conjointe. On voulait avoir des réponses. Et il y a des gens au fil des mois et des années qui se sont affiliés avec nous parce que pour la plupart, eux aussi avaient vécu des choses et voulaient obtenir des réponses. Il y a eu des sceptiques aussi qui ont fait équipe, dont Eric qui est encore là. Je les remercie tous. Je remercie même ceux qui ont déjà passé dans l'équipe et qui sont plus là. Je veux que vous sachiez que vous avez aidé à ce que Pas-Paranormal grandisse et vous avez emporté chaque personne a emporté beaucoup dans l'équipe. Depuis quelques années, surtout avec la COVID, là, il y a eu un manque de temps. Et puis, en même temps, les interdictions ont fait en sorte qu'il y a des enquêtes qui n'ont pas eu lieu et qui, malheureusement, ne pourront pas être parce qu'il y a des endroits qui ont été fermés ou qui ont changé de propriétaire. La COVID a fait mal. Et ça a fait en sorte que, présentement, je vous dirais depuis 2-3 ans, il y a 3 membres actifs dans l'équipe. Il y a Alex, le grand barbu, que tout le monde aime bien dans les vidéos. Il y a Isabelle et il y a moi. Mais on peut toujours compter sur l'aide de Marie-Josée Lamoureux, qui, elle, c'est l'intervenante en santé mentale, qui travaille avec nous depuis, je me trompe pas, 2012. Il y a Eric Chicoine aussi, avec Suzanne Chenard. Si jamais on a besoin de backup pour une grosse enquête, ben je sais qu'on va pouvoir compter sur eux dans les situations où on a besoin de plus de monde autour de nous. Il y a des petits prospects aussi qui sont toujours prêts, qui m'en parlent souvent, qui aimeraient ça participer, sont au courant de comment ça fonctionne. Donc la PA ne serait pas aussi grosse que ça l'a déjà été dans le passé. Il fut un temps où on était 13 ou 14 dans l'équipe là. Mais l'important, c'est qu'on puisse continuer à évoluer, puis de le plus possible d'aider les gens qui font appel à nous. Je vais faire une parenthèse. On a eu beaucoup de demandes, je vous dirais, dans la dernière année. Il a fallu filtrer. Il y a des gens que, malheureusement, ben, on a peut-être paru pour des gens qui étaient pas sérieux ou à notre affaire, mais il y a eu un gros manque de temps. Et vu qu'on était, entre parenthèses, low staff dans l'équipe, ben, certaines personnes ont attendu longtemps avant d'avoir des réponses. Fait que je veux essayer de remédier à ça. J'ai Mélanie Leclerc. On avait eu une discussion il y a quelques mois ensemble et je pense que elle aimerait bien reprendre le rôle de recherchiste relationniste. En tout cas, j'aimerais bien parce qu'elle faisait vraiment un bon travail. Il y avait aussi Nancy Lefrançois qui était prête aussi. Ben, en tout cas, la dernière discussion, elle semblait être enthousiaste à l'idée de revenir dans l'équipe. Il y a Marie-Claude Thériault aussi, c'est une excellente enquêtrice. Elle a eu des petits bébés, donc on lui laisse le temps. On est très content pour elle. Donc, c'est toutes des gens que vous avez vus dans nos vidéos dans le passé, là. toutes des passionnées. Et c'est pour ça que je suis content de les nommer, parce que c'est des membres importants du passé et qui sont toujours là, prêts à aider l'équipe, dans le fond, à comprendre les phénomènes paranormaux. Donc, il y a plus d'un mois, pour la plupart sont au courant, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, là, j'ai Roger Thivierge qui m'avait contacté pour m'inviter à faire un retour à Saint-Clotilde-Horton. Non, pas dans la bâtisse, parce que c'est interdit par la ville. Comme vous savez, en 2017, Saint-Clotilde a été obligé de fermer ses portes, clôturer. Et puis, s'il y avait du mouvement sur les lieux, ben M. Thivierge aurait reçu des grosses amendes. C'est interdit. Selon la ville, c'était dangereux. Donc, ça fait déjà 6 ans que c'est fermé. Et ça a attristé tout le monde, parce que même si en dernier, moi, ça m'intéressait plus d'y aller parce que il y avait beaucoup trop de monde. Puis je me gênerais pas de dire qu'en 2010, à l'époque, il y avait Dominique Desormeaux qui était dans l'équipe. Lui, à Star, il a son équipe personnelle, le Trail Spirit Paranormal. On a rendu l'endroit populaire. Oui, il y avait des gens, il y avait des gens qui allaient visiter la bâtisse. À l'occasion, il y avait quelques équipes, on peut les compter sur les doigts d'une main, là, qui allaient visiter l'endroit, faisaient des enquêtes. Mais lorsqu'on a débarqué là et qu'on a publié nos vidéos d'enquête avec les résultats, je vous dirais que pendant 2 semaines, les médias ont commencé à nous contacter. La télévision, radio, la télé web, les magazines, et ça, c'est pas du vent, là, c'est tout. Si vous tapez à pas paranormal, Saint-Clotilde-Horton, vous allez tomber sur les émissions genre Road Trip. Puis il y en a beaucoup d'autres, là. J'ai les noms m'échappent, là. Les magazines genre Le Sac de Chip, Dernière Heure. Puis en dernier, on était allé faire une émission avec l'émission Artefact. Ça a été, c'est l'année où ce que c'est fermé, dans le fond, ça a été fermé. Quand on est allé là, en 2010, la popularité, elle a augmenté, et je vous dirais qu'à partir de 2014, c'était quasi impossible de pouvoir aller faire une enquête là-bas. Il y a une centaine de pièces, mais je vous dirais qu'il y avait l'équivalent de 2 personnes par pièce, ça n'avait aucun sens. Donc, le meilleur moment pour aller enquêter là-bas, et vous demanderez à Dominique Desormeaux, c'était l'hiver. Quand il faisait moins 40 dehors, à l'intérieur de la bâtisse, il devait faire moins 55. J'ai déjà souffert d'angelures au pied, là. Ça avait été compliqué, mais on avait été capable de faire une belle enquête. Ça avait été quasiment une des dernières qui avait été fait là-bas. Donc, ça me faisait plaisir de retourner là, sauf sur le terrain, évidemment. Et pour moi, c'était correct, parce que je sais que le lieu enregistre les événements du passé. Moi, je crois à ça, là. Et il s'est passé autant d'événements à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, je suis toujours en analyse de la dernière enquête que j'ai faite sur le terrain. Éventuellement, je vais vous en faire part. Ça sera peut-être dans la prochaine émission. J'ai aimé l'expérience, j'ai aimé cet endroit-là. Ça a été détruit en partie. Et pour le reste, ben, ça devrait venir là. C'est très triste. C'est triste. C'était un endroit que tout le monde aimait. C'était quand on parlait, OK, enquête paranormale. Sur nos groupes ou sur nos pages, ben, tout le monde voulait aller faire l'expérience à Saint-Clotilde-Horton. C'était l'endroit où nous, on formait nos nouveaux enquêteurs. C'est un endroit qui avait de la prestance. Du moment où tu arrives devant cet édifice-là, à la noirceur, que tu n'as jamais mis les pieds dedans et que le seul éclairage, c'est la lune qui tape sur les murs de l'édifice, c'est impressionnant. Tu te demandes ce qui va se passer une fois que tu rentres à l'intérieur, et d'un coup que t'es dans le cœur de la bâtisse, ben c'est là que c'est là que le fun commence. Pour les enquêteurs, c'est, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Et ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Et c'est important pour moi d'être là une dernière fois. Et sur mes pages de réseaux sociaux, ben vous allez voir les dernières photos, les dernières vidéos éventuellement qui vont avoir été prises avant la démolition. En rapport avec l'émission qu'on est en train de faire, je vous inviterai dans les prochaines heures à aller voir sur la page de la Pas Paranormal. Je vais mettre des photos et des informations. J'avais à l'époque une grande recherchiste qui s'appelait Louise Racine. Elle était excellente. Elle faisait des téléphones. Elle rentrait en contact avec plein de monde qui devait être contacté. Elle savait que ces personnes-là avaient des informations importantes. Quand elle faisait une recherche, elle les faisait vraiment en totalité. Malheureusement, elle nous a quittés décédée d'un cancer il y a quelques années. Paix à son âme. C'était vraiment une très bonne personne. Je vais vous lire un bout de document qu'elle nous avait trouvé. Ça a le rapport avec les débuts de l'asile de Sainte-Clotilde. Donc, en 1939, les missionnaires du Sacré-Cœur s'établissent dans le rang de la rivière Est, sur la ferme de M. Alexandre Martel, inoccupée depuis longtemps. Avec l'aide de bénévoles, ils restaurent la maison et construisent une chapelle à l'arrière. Il s'agit d'abord d'un noviciat et bon nombre de jeunes y recevront leur première formation à la vie religieuse. Le père Armand Hamelin fut le dernier supérieur de la place. J'ai des photos là que je vois, il y a des jeunes enfants qui sont devant la bâtisse. Je fais une parenthèse. On a souvent capté, que ce soit Pas Paranormal ou d'autres équipes dans le domaine, on a souvent capté des voix d'enfants. Faut savoir que l'asile de Sainte-Clotilde, anciennement l'Institut Norval, il n'y avait pas d'enfants là. C'était des jeunes adultes, des adultes qui étaient à cet endroit-là. Donc, moi, je peux penser que les voix d'enfants qu'on entend datent, en tout cas, de 1939, entre 1960 et avant 1939, là, parce qu'il y avait quand même M. Martel qui était là quand même depuis des années. Il y a eu une ferme sur place. C'était juste un petit peu plus loin, mais c'était quand même tout près de l'asile de Sainte-Clotilde. Et la maison de ce monsieur, elle a été transformée. Vous allez voir, là, c'est quand même beaucoup plus grand. Et vous allez voir, il y a comme des pignons sur le toit. Là. Il y a eu un incendie à l'époque. Et il y a trois personnes qui sont mortes, trois jeunes qui sont morts. L'incendie aurait été causé par une cigarette. Et l'histoire se répète. Le 23 janvier 88, vers 10h, il y a eu un incendie qui a été déclaré. En fait, on parle d'un zippo qu'un des patients aurait réussi à prendre. Et ça a été vraiment très vite. Et malheureusement, il y a eu 9 personnes qui sont décédées dans cet incendie-là. Et là, quelques mois, même pas quelques semaines après, il y a eu un autre incendie. Mais à ce moment-là, il y avait personne qui était sur place. Là. Donc, côté feu, cette bâtisse-là, je pense que c'est l'histoire se répète. Il y a beaucoup de on va appeler ça comme ça, de malheurs. Donc, ça, c'est sans compter... Il y a une personne, en tout cas, qu'on est au courant que ça serait suicidé au niveau du sous-sol. C'est un des employés qui nous avait raconté l'histoire. Un dénommé James, on n'a pas eu son nom de famille. C'était pour garder, dans le fond, un respect envers la famille. Il y a un frère qui est décédé en tombant du toit. Il y aurait eu des suicides aussi, des personnes qui se seront lancées par les fenêtres. Ça, je l'ai su dernièrement, là. Il y aurait quelqu'un qui se serait noyé dans la piscine. J'en avais entendu parler à l'époque, mais ça semblait être plus comme une légende. Et j'ai eu une confirmation par un monsieur qui habite le secteur. Donc, même si on n'a pas eu accès à l'intérieur de la bâtisse. On s'entend que tout ce qui est arrivé, les tragédies, etc., c'est enregistré sur les lieux. Et j'étais quand même très content d'être là à faire une dernière enquête. Et j'espère que le résultat de cette dernière enquête-là va vous plaire. On a quand même travaillé fort, on a passé des heures. Et comme j'ai dit, la température n'était pas de notre côté parce que ça fait un mois qu'on remet à cause de la pluie. On ne pouvait pas se permettre d'endommager des appareils avec l'eau dedans. Là, j'ai des caméras qui n'auraient pas aimé ça, mettons. Là. Puis en même temps, ben, c'est une pollution sonore et visuelle. Et je fais une autre parenthèse. Le monde dit toujours, « Ah, vous faites les enquêtes juste la nuit. » Pourquoi? Pour vous faire des peurs? Non, là, maintenant, vous avez la preuve, encore une fois, que les phénomènes paranormaux ils vont se déclencher à n'importe quel moment. La seule, que ce soit le jour ou la nuit, la seule chose, c'est que la nuit, on enlève au moins de 80% la pollution qui nous entoure, la pollution sonore, la pollution visuelle. C'est plus tranquille. Les gens, normalement, la plupart dorment. On n'entend pas, on va entendre certains animaux, mais la plupart dorment la nuit aussi. Il n'y aura pas autant de reflets de véhicules, le bruit des pneus, etc. Donc, c'est vraiment une question de... C'est plus facile pour nous enquêter la nuit que d'essayer de décortiquer dans le jour. Parce que là, on s'entend là qu'il faut vraiment faire un setup dans le jour. Il faut vraiment tout analyser, il faut écouter, il faut être à l'affût pour être certain que tout ce qu'il y a autour va pas nous nuire durant l'enquête. Donc, c'est une façon sérieuse de travailler. Puis c'est une façon que... sinon, si on fait pas ça, ben on est tous bien de... faire n'importe quoi, là. C'est comme quand tu as une passion, tu te donnes à fond, tu mets toute ton énergie pour que ça soit comme tes derniers moments. Tu sais jamais ce qui va arriver, là. Fait que tu t'arranges pour aimer ce que tu fais, puis te dire, bon, mais OK, la prochaine enquête, ben je vais me donner encore plus. J'ai aimé la première fois, la deuxième va être encore meilleure, et ainsi de suite. C'est ça qui fait en sorte que... on aime ce qu'on fait parce qu'on sait que on n'est pas là pour inventer des histoires ou faire croire d'eux, mais bien rapporter quand il y a des événements inexplicables. On est là pour les rapporter puis essayer de les comprendre. Parce que il y a certaines choses qui peuvent être explicables, qui sont démystifiables et qui ne sont pas paranormales. Là, vous comprenez qu'il y a une bonne partie de l'émission là qui va faire le tour de l'asile un peu en mémoire des lieux. Là. Je vais avoir quand même quelques anecdotes à vous raconter. Et j'espère que vous allez apprécier l'émission. Justement, une petite anecdote, vu que j'y pense, là. Je m'excuse. La première fois que j'ai mis les pieds dans l'endroit, je me suis dirigé. On monte le premier étage. Je tourne à gauche et tout de suite, à ma droite, il y a une porte. Je sais pas pourquoi, je suis pas un médium, mais j'ai été attiré dans cette pièce-là. Et quand on rentre dans cette pièce-là, à l'époque, il y avait un meuble sur le côté, il y avait des tiroirs qui étaient débarqués, il y avait un vieux matelas, il y avait même des petits jouets par terre. Et le K2 réagit. Le K2, c'est le détecteur de champs électromagnétiques qui réagit aux champs magnétiques qui proviennent d'un peu tout ce qu'il y a autour. Normalement, une bâtisse qui n'a pas d'électricité ne devrait pas émettre de champs électromagnétiques. T'as pas de Wi-Fi, t'as pas d'électricité. Donc, les champs magnétiques réagissent et à un certain moment, je me sens, je sais pas pourquoi, puis je le dis à mon équipe, je dis « je vais pas bien ». Et là, je réalise que j'ai comme une certaine tristesse là, qui m'envahit. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il faut que je sorte parce que je suis pas bien. Et là, j'ai redescendu les escaliers, je suis allé dehors et je me suis accoté sur la rampe et je me sentais vraiment triste. Et ça, ça m'avait mis à l'envers. C'était la première fois que j'allais là. Et là, moi, comme un cabochon, j'ai fait quelque chose qu'il faut pas faire et je l'ai répété à plusieurs reprises. Je suis rentré encore et là j'ai commencé à dire, écoute, moi j'ai, parce que moi dans ma tête c'était un enfant, une petite fille ou un petit gars qui était là, ça semblait être la voix d'une petite fille. Et là je dis, écoute, j'aime pas ça que tu sois ici dans le noir toute seule. Je veux que tu viennes, je veux que quand on va partir, je veux que tu nous suives. Moi, chez nous, il y a des chevaux, c'est la campagne, il fait beau, il y a des arbres, on a deux chiens, on a un chat, tu vas voir, il fait beau, il y a une rivière, tu vas être bien mieux à la maison qu'ici. Et là, on fait l'enquête. Et là, l'enquête se termine, on s'en va au véhicule. À l'époque, j'avais un Forester, la porte ouvrait par en haut à l'arrière. Et là, Isabelle me donne l'équipement, et là, je tends mon bras, et j'ai l'impression qu'elle me lance le K2, parce qu'il a littéralement frôlé mon visage. Je dis, mais là, pourquoi que tu me lances le K2? Elle dit, ben, je t'ai rien lancé. Elle dit, je pensais que c'est toi qui me l'as enlevé de des mains. Je dis, ben non, je t'ai tendu la main, puis tu me l'as lancé. Donc, elle dit que l'objet, le K2, a été comme arraché de ses mains et lancé vers moi. Il n'y a pas d'autre explication, parce que c'est sûr que je crois ma femme, là. Donc, ça, c'est arrivé. On fait la route, on revient ici, et le lendemain, j'étais vraiment désagréable, j'étais agressif, je me sentais fâché, en même temps, j'avais une grosse fatigue. Puis même Isabelle me disait, hey, là, c'est quoi qui se passe, c'est quoi que t'as, là? Puis là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui nous avait suivi. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné dans la chambre, j'ai fermé la porte, j'ai allumé de la sauge, parce qu'à l'époque, j'ai resté quand même plusieurs mois avec des Indiens. Ils m'ont montré la purification, et ça me faisait du bien quand je faisais ça. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai mis de la sauge dans un coquillage, j'ai pris la plume, j'ai saugé la chambre. On voyait rien tellement qu'il y avait de la fumée, là. Je suis resté là une bonne heure, couché sur le dos, les yeux fermés, et je suis ressorti, puis je me sentais littéralement vidé, comme si j'avais plus d'énergie. Et là, ben, j'ai compris que ce que j'avais invité à venir à la maison, ben, c'était certainement pas une petite fille ou un petit gars, c'était quelque chose qui était peut-être en colère ou triste, justement, si c'était une entité qui était décédée dans le feu. Eh bien, il n'a pas été capable de me faire comprendre, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ça a été la première expérience. Donc, on va aller à une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
Politique correcte.
Ben, moi, sur un dossier que j'aurais aimé qu'on puisse peut-être cuisiner un peu, c'était le troisième lien. T'sais, honnêtement, ouais. Le troisième lien, transport en commun uniquement, pour l'investissement qu'on va mettre, combien on va retirer de char, tant qu'à ça, paye l'autobus au monde un peu comme l'offrait...
J'ai bien aimé la candeur là-dessus, par exemple. Il a dit, écoutez, nous autres, ce qu'on proposait, là, c'était avec un budget de 3 personnes élues à l'Assemblée nationale seulement, on n'avait pas le bureau de projet. Ouais. C'était une belle candeur, ça. Tu sais, fait que finalement... On a fait ça vite fait, puis...
Ça a donné le plan de la CAQ.
Ouais!
C'est ça qui est arrivé, là. On fait ça vite fait du mieux qu'on pouvait, puis ça a donné le plan de la CAQ.
On est désolé, c'était un plan de marde. La CAQ, solide.
Politique correcte. Votre retour en semaine, dès 15h22.
CJMD. L'alternative radio.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Le retour de la pause. Je voulais faire une petite rectification parce que j'ai réalisé que, dans le fond, j'ai mélangé deux dossiers quand j'ai dit que ça avait été démoli ou c'était sur le point de l'être, là. Rivière-la-Guerre. Ça, c'est éventuellement un sujet sur lequel j'aimerais discuter avec vous dans les prochaines émissions. On m'a dit que cet endroit-là avait été rasé, du moins de l'autre côté de la petite rivière, là, la bâtisse où on avait capté les PVE de Garden, etc. Donc, Sainte-Clotilde devait être démoli en septembre, mais en discutant avec M. Tivierge, sur papier, ça serait au mois de décembre. Sauf que là, vu qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à la bâtisse, si ça change demain, ben là, il va y avoir annulation de la démolition. Et là, c'est un processus qui va être recommencé pour la ville qui, elle, désire la démolition de l'endroit, là. Donc, on se croise les doigts. On aimerait vraiment que Sainte-Clotilde reste vivante et que... Il y a quelque chose à faire avec ça, là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà pour ça. J'aimerais vous faire entendre, là, vous comprenez que c'est un spécial Saint-Claude pour moi, là. J'aimerais vous faire entendre quelques bons PVE qu'on avait captés et qui avaient suscité, justement, l'intérêt, là, des médias à l'époque.
Il n'y a pas juste les fantômes qui aiment ça.
Parce qu'un truc comme ça, ça rapporte quelque chose qu'il y avait dans le temps. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose de vivant, c'est du bruit qu'il y avait à l'époque, que les gens étaient habitués d'entendre. Il y avait des télévisions quand même aussi là, sur les étages. Ouais. De la musique, beaucoup de musique. Ça aussi, c'est une sorte de provocation pour tout faire. On sait que c'était ouvert entre les années 60 puis qu'à début... fin 80. Fait que tu peux faire jouer de la musique qu'il y avait à l'époque aussi. Mais une place comme ça, c'est vraiment un petit bonheur. Vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimez ça, Mickey Mouse?
Ça vous rappelle sûrement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette?
J'ai entendu,
oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon.
Vraiment, cette fois-là, là, ça avait été une grosse paye pour nous autres. Le oui direct. C'est, comme j'avais déjà parlé, on n'avait pas compris pourquoi on captait des voix d'enfants. C'est seulement par la suite, quand on a appris qu'il y avait l'existence de la ferme à l'époque, avant la construction de l'Oise de Sainte-Clotilde, il y avait une famille qui habitait là et je sais qu'il y a eu un incendie puis qu'il y a eu des décès. Dans cette maison-là, en fait, il y a eu trois enfants, des jeunes enfants qui sont décédés dans l'incendie, là. Donc, ça pouvait expliquer les voix d'enfants qu'on captait à l'époque à Sainte-Clotilde. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là?
Oui.
Bolac.
C'était clair, ça.
Cette fois-là, quand j'avais demandé si James était là, c'est parce que la veille, on était allé à Sainte-Clotilde-Darton avec Radio-Canada et l'agence QMI, qui nous avait accompagnés une bonne partie de la nuit, là, faire une enquête avec nous. Et on avait capté vraiment des bons PVE. Et il y avait un James qui s'était nommé que on n'avait jamais entendu avant. Donc, tout le monde avait été surpris. Le oui était très clair et direct. Donc, ça fait partie d'une de nos belles preuves de phénomènes paranormaux captés. Et on en a des dizaines et des dizaines, des comme ça. Je vais vous en faire écouter sûrement d'autres au fil de l'émission, là. Je voulais vous raconter, il y a au moins 7 ou 8 ans, peut-être un peu plus, là, on avait réuni beaucoup de monde à l'endroit. Et on avait fait une reproduction à l'époque de l'incendie, si on veut, là. On avait amené des speakers, on avait déclenché une alarme de feu dans la place, Et là, on a fait participer une trentaine de personnes qui s'étaient mis à courir partout et à descendre les escaliers. Il y avait une foule, dans le fond, qui descendait en même temps. On avait mis des caméras sur chaque étage. Il y avait un caméraman qui suivait tout ce monde-là en descendant. On avait mis des détecteurs de champs électromagnétiques un peu partout. On avait réalisé qu'il y avait quelque chose qui s'est passé ce soir-là parce que les champs magnétiques étaient très élevés. C'est comme si on avait recréé la panique de l'époque. C'était le but, on voulait vraiment voir. Parce qu'on sait que dans certaines situations, comme exemple, on amène un objet. Je sais qu'à l'époque, il y avait une des personnes qui est décédée dans l'incendie, là, je n'aimerais pas son nom. On avait parlé avec la famille et elle nous disait que cette personne-là adorait les magazines distribution consommateur. Lui, il s'installait à une table tout seul, puis là, il regardait page par page tous les objets qu'il y avait dans le magazine. Donc, on avait emmené des vieux distributions consommateurs. Puis, on avait réussi à capter des PVE. On avait comme attiré l'attention de cette personne-là. Et en faisant ce qu'on a fait ce soir-là, en déclenchant une alarme d'incendie, en demandant aux gens de quitter, puis tout ça, ben on a créé une énergie vraiment spéciale. Même il y a du monde qui se sont sentis tristes, rendus dehors. C'est comme s'ils avaient senti une panique de quelqu'un d'autre, puis ils ont vraiment pas aimé ça, là. Mais c'était ça le but, c'était vraiment de recréer un événement. On a capté des PVE ce soir-là, mais c'était inaudible. On n'a pas compris ce que ça disait. L'affaire qui arrive, c'est qu'on avait pour environ 16 heures de données avec toutes les caméras, les enregistreuses numériques, tout ça. À cette époque-là, je pensais qu'un disque dur, c'était éternel. Et malheureusement, ce disque dur-là nous a lâchés. Fait que cette enquête-là, il y en a juste une petite partie qui se trouve sur YouTube et tout le reste a été perdu. Je vous dirais que j'ai perdu au moins une soixantaine d'enquêtes. Que ça m'a brisé le cœur. Sanatorium du Lac-Édouard aussi, il y avait une grosse partie qui était là-dessus. Hein. Mais depuis ce temps-là, je suis rendu avec, je pense, 8-10 durs. Deux bureaux, quatre portables, j'ai un autre ordinateur aussi qui a des données dessus. Si seulement si celle-là brise, je suis déjà prêt à connecter l'autre ordi avec déjà des données dessus. On a appris à se protéger là. Donc ça, c'était un événement que je vais pas jamais oublier. Puis tous ceux qui ont participé là, si jamais vous entendez cette émission-là, recontactez-moi via la page ou mon profil personnel. J'aimerais ça vous parler parce que peut-être que je vous ferai participer à une des prochaines émissions pour entendre les expériences que vous avez vécues cette nuit-là avec nous autres. Là. Vous avez été plusieurs, je dis 25-30, là, mais vous étiez peut-être plus nombreux que ça. Je me souviens que M. Duverge avait été assommé de voir le nombre de personnes qui voulaient participer avec nous à cet événement-là. Je parlais aussi tantôt quand j'avais participé au tournage du film P égale WP, l'énergie sombre. Je me rappelle très bien que certains caméramans, les gars de son, même les acteurs étaient vraiment mal à l'aise. Pas parce que c'était pas causé par l'état de la bâtisse qui faisait en sorte que ça fait un peu creepy. Là. Il y avait dans certaines pièces, les gens se sentaient pas bien. Et il y en avait qui avaient besoin de sortir dehors. Pour aller prendre de l'air. Comme moi, au début, c'est dans mon équipe, il y avait des gens de l'équipe qui disaient, « Hey, Pat, il faut que j'aille respirer un peu, je me sens pas bien. » Donc, je me rappelle, avec les gars de tournage et tout ça, là, c'est cette bâtisse-là, elle a quelque chose de particulier. C'est sûr que quand tu y vas souvent, je pense que la bâtisse s'habitue à toi. Et tu es capable de gérer, dans le fond, ce que tu pourrais pas gérer quand que tu commences à aller dans une bâtisse comme celle-là. Pour moi, Saint-Clotilde d'Horton, je le répète, là, c'est un des endroits les plus hantés au Québec. Il y a pas juste nous autres qui a capté des trucs intéressants, là, des phénomènes inexplicables. certaines personnes ont beau dire, oui, mais il y a des rongeurs, il y a des pigeons, il y a des animaux qui rentrent là. Oui, mais j'ai jamais entendu un pigeon me dire allô, ben non, me dire hey Pat, ou ça serait très paranormal. Il faut avoir été là, il faut avoir pris le temps. Je dis ça comme ça, là, on n'a pas capté des choses à chaque fois qu'on a été là. Là. Il y a des souvent on est allé puis on est revenu bredouille avec des heures et des heures d'analyse. On court après le paranormal, mais c'est pas toujours là. En sachant très bien que la bâtisse a des entités, je vais l'appeler comme ça. Là. Puis je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent, peu importe d'où vous venez, si vous avez visité l'asile de Saint-Clotilde d'Horton, vous comprenez très bien de quoi je parle. Et le sentiment de tristesse qu'on peut avoir, nous, les enquêteurs, ceux qui connaissent la place, d'apprendre que peut-être l'endroit serait démoli, là. Donc, c'est un endroit particulier, puis comme je le répète encore une fois, là, aujourd'hui c'est un spécial Saint-Claude, là, j'aimerais beaucoup qu'on la garde. Puis, si jamais vous êtes quelqu'un d'intéressé à avoir des parts, parce que le terrain, il y a beaucoup d'hectares, je me souviens pas combien, c'est très très grand, là. Et moi, je peux vous mettre en contact avec M. Tivierge. Il y a une érablière, il y a une possibilité d'un terrain de camping là-bas, c'est sur le bord de l'eau, c'est très très grand, donc il y a quelque chose à faire là-bas, pas juste au niveau de la bâtisse, là, mais moi je pense que si vous avez les moyens et que ça vous intéresse, contactez-moi, je vais vous mettre directement en lien avec M. Tivierge, et peut-être qu'il y aura moyen de sauver la bâtisse et bien faire revivre dans le fond tout ce secteur-là, parce qu'au départ, comme j'avais dit en début d'émission, M. Tivierge avait acheté ça pour construire une espèce d'hôtel, et finalement ben les projets ont changé, puis malheureusement on est rendu où est-ce qu'on est. Donc contactez-moi via Apport Paranormal sur la page, ou sinon mon profil personnel Patrick Sabourin sur Facebook. Je me souviens pas si à l'époque je l'avais déjà raconté à l'émission, mais je vous ai déjà parlé qu'on avait déjà dormi à quelques reprises à Saint-Clotilde d'Horton. Moi puis Isa, on mettait la tente à l'intérieur, on se plaçait confortable. Et autour de nous autres, ben je mettais des codeurs. Parce que de temps en temps, quand on se réveillait la nuit, je jetais un œil autour, voir qu'est-ce qui se passait. Il y avait des caméras qui enregistraient aussi tout au long de la nuit. Parce que si on entend quelque chose, ben je voulais être sûr de rien manquer, puis que ça soit capté en audio ou vidéo, là. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui nous réveille. Puis c'est un bang, ou je sais pas trop, mais il y a un bruit qui se fait dans la place. Et là, je parle, bien sûr, dans le temps qu'il y avait presque personne qui y allait, parce que sinon on n'aurait jamais pu dormir là tranquille, là. On aurait pu se faire voler notre matériel pendant qu'on dort. Et je me lève la tête, je regarde au pied de la porte de la tente, et je vois que les trois codeurs réagissent, mais vraiment fort. Et à ce moment-là, je vous le jure, on a entendu comme des petits pas d'enfants qui couraient dans le couloir. Ça résonnait dans le couloir, et on entendait même les petits pas s'éloigner. Ça a duré peut-être 3 secondes. Ça a été vraiment... ça a vraiment interminable, mais c'était rapide. Puis là, moi, j'ai dit, il y a quelqu'un en place, ça se peut pas. J'ai ouvert les épaules, j'ai sorti avec ma lampe de poche. J'ai regardé, j'ai fait le tour sur l'étage, j'ai rien trouvé, j'ai rien vu. J'ai regardé par la fenêtre, d'un coup, que je verrais quelqu'un se pousser. Ben non, on était tout seul. Et même Dom a sorti de sa tente. Puis il a fait le tour de son côté pour essayer de voir si c'était pas quelqu'un qui nous jouait un tour. Ou, donc ça avait été vraiment un événement marquant. Puis ça s'est produit durant le temps où c'était tranquille. Qu'il n'y avait pas d'enquêteur qui posait 100 000 questions ou qui essayait de capter avec des machines ou quoi que ce soit. Puis il était environ, je vous dirais, 4h30 du matin. Un autre souvenir qui me revient comme ça pendant que je discute avec vous. On est moi, Isa, Dom. On est au niveau du sous-sol, une grande pièce. Je pense que c'était la cafétéria à l'époque. Et là, on sépare les trois. On prend, à partir de cette pièce-là, moi, je m'en vais un peu plus loin, je change de pièce. Je pense que je m'en allais de l'autre bord de la cuisine, c'était les fourneaux qui étaient là. Dom va comme dans l'espèce de gymnase. Et là, après quelques minutes, on entend Isa qui m'appelle, qui crie dans le fond assez fort pour que je pense qu'elle a vraiment besoin d'aide, d'assistance. Et là, ben là, on s'en vient, moi pis Dom, on allume les lampes de poche, puis là, on se rapproche. Et là, elle me dit, ben, j'ai vu comme une espèce de grande ombre noire qui fonçait sur moi. Puis, t'es capable de me décrire, là, vraiment la forme, les épaules, c'était beaucoup plus grand que moi, plus large. Et là, on a essayé de voir si c'était pas un effet de jeu d'ombre et de lumière. Parce que dans ce temps-là, il y avait encore les fenêtres, il y avait des encore des fenêtres pas barricadées. Il y avait la lumière de la lune qui rentrait à l'intérieur. Donc, peut-être qu'en bougeant d'un certain angle, il y avait peut-être un jeu d'ombrage qui aurait pu avoir été fait. Donc, on a fait des tests avec elle, on a filmé tout ça, puis dit non, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que j'ai vu devant moi. Là, c'était vraiment une masse sombre. Puis Isa, ben c'est quelqu'un qui a quand même un côté rationnel. C'est beaucoup elle qui va essayer de même si on n'a pas réussi à démystifier, elle va pousser vraiment pour essayer de comprendre puis d'essayer d'aller plus loin. Mais cette fois-là, elle a pas aimé ça. Puis je pense quand même qu'on a fini l'enquête à ce moment-là. Après cet événement-là. Ça, c'est un autre. Je me rappelle que quand on avait fait cette enquête-là, on avait fait un live et on avait... comment je pourrais dire ça? La démystification, c'est ce qui a fait en sorte aussi qui nous a différencié de beaucoup de personnes dans le domaine qui ne pousse pas assez à l'époque, je parle, là, parce que là, on s'entend que là, ça s'est raffiné avec le temps. Il y a beaucoup de bons enquêteurs. Je vous dirais, là, dans les 5, 6, 7 dernières années, là, il y a des nouvelles équipes qui sont apparues. Là, on ne rit plus. Là. C'est plus juste, OK, on fait... on rentre en quelque part, puis dans le fond, on trippe. On cherche le feeling d'avoir peur. Là. Non, c'est plus ça. Là. C'est on essaie de comprendre les phénomènes paranormaux et ça fait plaisir de voir ça. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que la plupart du monde qui commence dans le domaine vont m'envoyer un message en me disant « C'est grâce à vous autres, à pas que j'ai commencé parce que il y en a qui ont vécu des choses aussi. » Et ça a attiré leur attention, le fait que moi, quand j'ai commencé à en parler, ça a pris du temps. C'est pas quand j'ai commencé dans le domaine, je me suis pas ouvert aux gens. J'ai juste dit que je m'intéressais au paranormal. Ça a pris plus que 10 ans avant que je dise, OK, gars, moi, je suis là-dedans parce que j'ai déjà vécu quelque chose aussi. J'étais jeune. Ça l'a changé. Ça l'a bouleversé mon enfance. Et c'est la raison pour laquelle quand on a des demandes d'enquête, ben, je vais favoriser. Je vais vraiment essayer de me dépêcher le plus possible quand j'entends, la famille me dire, OK, ben, gars, nous, on a des enfants et sont malgré eux impliqués dans quelque chose qu'on comprend pas. Donc c'est sûr que dans les prochains jours, on se rend là puis on veut les aider là. La démystification, c'est le but premier des enquêteurs, parce qu'on est là surtout pour essayer de rassurer les familles. Quand il n'y a rien de paranormal, ben il n'y a rien de paranormal. Sauf que quand il y a des choses inexplicables, ben ils sont contents d'être soutenus puis d'être crus aussi, parce que ça, c'est une autre chose. Je me rappelle encore une autre anecdote. Dans les débuts, M. Thivierge nous racontait qu'à un moment donné, il y avait un inspecteur en bâtiment qui avait été là-bas. Et même ça, Christian Page en a parlé il y a plusieurs années, là. Et l'inspecteur bâtiment a resté environ 20 minutes à l'intérieur et a juste ramassé ses choses et est parti en courant et aurait juste dit « J'ai vu quelque chose en dedans, je reviens plus ici, je veux rien savoir. » C'est pas vraiment les mots qu'il a dit, mais il a fait comprendre qu'il avait vu quelque chose à l'intérieur et cette personne-là en a jamais parlé. Donc ça, c'est, ça a fait en sorte aussi d'attirer l'attention des gens curieux, des gens dans le milieu du paranormal qui ont dit « OK, on va aller voir, c'est un asile abandonné en plus. » Fait que s'il y a quelque chose à capter, ben on va y aller. Donc ça, c'est un autre témoin. À l'époque, il y avait beaucoup de monde qui faisait juste marcher autour, qui avait pas d'intérêt à rentrer, mais ils voyaient des visages dans les fenêtres. Il y avait souvent le visage d'une femme qui était à la fenêtre. Encore là, est-ce que c'est juste quelqu'un qui était à l'intérieur pour squatter ou peu importe, là? Possible. Mais beaucoup de témoins auditifs aussi, des cris de l'intérieur pendant qu'eux sont en train de marcher autour, à prendre des photos et juste passer une belle soirée dehors, là. Donc, puis ça, je vous le relance aussi. Si jamais vous êtes quelqu'un qui avait déjà vécu des choses inexplicables à Sainte-Clotilde-Horton ou vous connaissez quelqu'un, et là, je parle de l'époque, depuis que c'est abandonné, là, il n'y a plus personne qui s'est abandonné depuis 1988. Donc, à partir de ce moment-là, si vous avez déjà vécu des choses inexplicables, ce serait vraiment un régal.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De vous entendre nous expliquer, nous raconter vos histoires, dans le fond. J'avais pris des notes pour pas oublier. Là. Dans les débuts, je pense que c'était la quatrième fois qu'on allait à Sainte-Clotilde. Encore une fois, moi, Dom et Isa, on est au quatrième. Et dans, pour ceux qui connaissent la bâtisse, pour les autres, je vais décrire, là, on est dans le fond, droit. Quand on est en face de la bâtisse, on est dans le fond droit, à l'avant. Et on est en train d'essayer de faire des séances de phénomènes de voix électronique avec la Ghost Box. Et là, il y a Isa qui se vire en même temps que Dom et qui regarde vers en direction de la porte de l'ascenseur. Et là, les deux, ils se regardent, ils disent « T'as-tu vu? » Mais moi, je l'ai pas vu, je l'ai manqué, donc moi, je me fie à leurs paroles. Puis là, ils décrivent la même chose. Isa a dit, il y avait une femme blanche là, puis elle marchait vers l'ascenseur. Puis Dom a parti à courir, puis pendant qu'il courait, il dit, moi aussi, je l'ai vu. Là, il court vers l'ascenseur, puis il regarde partout. Puis là, il s'en va d'abord, puis là, tu le vois dans son visage, que OK, je viens de vivre quelque chose, là, puis je comprends pas, là. Il y avait une femme blanche que ces deux-là, ils ont vu en même temps. Moi, je l'ai pas vu. Ça m'a fait... j'étais jaloux. Oui, j'étais jaloux. Mais juste ce moment-là a fait notre soirée. Moi, j'étais quand même content parce que j'avais deux personnes fiables de confiance qui venaient de me dire « OK, gars, on vient de vivre quelque chose. On a vu une forme. » Puis la façon qu'ils le décrivaient, c'était à peu près grand comme d'homme, mais tout blanc, comme en fumée, si on veut. Là, une brume. Ouais, je pense que c'est le mot qu'ils avaient utilisé, une brume blanche qui se déplaçait. Donc, puis il faisait pas froid dehors, pas de courant d'air, y a pas, c'était pas explicable, c'était juste pas explicable. Donc, j'espère que j'attire votre intérêt. Si jamais, je pense que c'est encore temps là. Si vous voulez contacter Tivière juste pour aller visiter l'endroit, je pense que si vous avez jamais été, même si vous avez pas le droit de rentrer dans la bâtisse là. Juste le fait d'être devant ce bâtiment-là qui a beaucoup de prestance encore aujourd'hui, là, dû à son histoire et tout ce qui est rapporté côté paranormal, là, contactez-moi, je vous le dis, ça va me faire plaisir de donner le numéro de téléphone de M. Tivierge. Là. Ça vaut la peine d'aller faire une séance de photos en souvenir, même les explorateurs urbains. Là. Contactez-moi, vous allez voir que c'est pas du vent ce qu'on raconte. Là. On va aller une courte pause, puis on se retrouve tout de suite après.
Rocksoudure.com.
CJMD. Honorer nos commanditaires.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
Le retour de la pause. Via les réseaux sociaux, je vous ai raconté un peu notre arrivée sur TikTok. Et quand je vous parlais tantôt là, de Saint-Clotilde-Darton, j'ai commencé à en parler il y a quelques jours déjà. Et sur les réseaux sociaux et sur TikTok, je m'attendais pas à un intérêt aussi grand. À ce jour, il y a deux vidéos qui ont été mises. Et il y en a une en une semaine environ. Elle a eu 30 700 views. J'ai jamais vu ça sur mon sur le TikTok. Et l'autre qui est là depuis seulement 4 jours, elle est rendue à 69 400 views. Donc ça montre que l'intérêt pour l'endroit, pour l'histoire de ce lieu-là est vraiment important. Et j'ai seulement que des bons commentaires, autant juste des visiteurs, des gens qui allaient là juste pour prendre des photos, des explorateurs urbains, beaucoup de gens qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux, qui ont entendu des histoires, qui sont allés là, donc, et j'ai le nombre d'abonnés, vraiment, je vous remercie beaucoup, là. Puis, en parenthèse, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre TikTok, je vous encourage à le faire. Juste nous chercher en écrivant à Pas Paranormal et vous allez nous trouver très facilement. Donc, je vais vous laisser au bon soin de Dominique Desormeaux qui est de retour en tant que collaborateur à l'émission Projet Anubis. Il va venir nous raconter ses expériences à l'asile de Saint-Clotilde-Darton.
Hey, salut Patrick, merci encore une autre fois pour l'invitation à ton émission de radio. J'espère que t'as passé une belle été. J'espère que les membres qui sont à l'écoute ont passé une belle été et que la rentrée scolaire s'est bien passée. Ouais, on parle de Saint-Claude, de Saint-Claudine de Horton. Par où commencer? Saint-Claudine de Horton, on va commencer par le début. La première fois que j'ai mis les pieds à Saint-Claudine de Horton, je suis rentré comme dans une capsule captivante. Il y avait encore des fenêtres, encore des portes, encore des meubles dans la bâtisse. C'était pas saccagé comme dans les derniers temps. Je vais y arriver à ce point-là, là. Mais c'était de toute beauté et en plus de savoir l'historique de la place, etc., donner un cachet spécial à l'endroit. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai de Saint-Claudine. J'en ai tellement de souvenirs de Saint-Claudine. Des bons et des mauvais souvenirs. J'essaie de me souvenir plus des bons que des mauvais, mais il y avait quand même des mauvais souvenirs, mais des bons souvenirs. J'ai rencontré beaucoup de personnes à Saint-Claudine-de-Horton. Quand on a commencé, je me souviens, quand on a commencé, moi puis toi, à y aller, au début, il y avait absolument pas personne. Peut-être que dans une soirée, on pouvait voir passer peut-être 5 à 10 personnes dans la soirée, puis ça, c'était comme un gros soir, là, un vendredi, samedi soir. Et pas longtemps après ça, ben une fois que quand j'étais, quand je faisais partie de ton équipe, papa, on a commencé à aller là. On allait là assez régulièrement. On était rendu quasiment des membres attitrés comme chez Costco à Saint-Claude-de-Lorton. On allait là assez souvent pour essayer de démystifier des choses, tenter des expériences. Je me souviens, il y a des soirs où on partait dans le milieu de la semaine, moi puis toi, Pat, puis qu'on montait jusqu'à Saint-Claude-de-Lorton juste pour pouvoir enquêter un 2-3 heures parce qu'on se posait des questions sur quelques dernières enquêtes qu'on avait faites. Comme je dis, rencontrer du beau monde, le propriétaire Roger, toujours sociable à toutes les fois qu'on allait là. Beaucoup de jasettes, beaucoup d'entre-gens, nous expliquer ce que les autres équipes, ce que les autres personnes avaient vécu, etc. Je me souviens un soir, on a pris des photos, on avait entendu une petite fille qui avait demandé de l'aide. On y avait dit que ça avait besoin d'aide, de nous suivre, là, puis tout ça. Puis quand on est allé dans une autre pièce, tu t'es assis à sur une chaise, la petite fille était à côté de toi, puis il y avait une autre entité qui était à côté de toi, il touchait au code 2, j'avais pris des photos, je les voyais. Ça, ça avait été spécial. Comme je dis, j'ai rencontré un paquet de monde là-bas. J'ai fait des enquêtes avec un paquet de monde. J'ai apporté des groupes personnellement. Une fois que j'ai parti mon groupe qui était le 13 Spirit maintenant, qui est rendu Investigation 13, j'apportais des personnes venir passer une soirée avec nous, expérimenter. On l'a fait autant aussi avec APA. On avait apporté, je me souviens, une fois, on avait apporté un couple qui venait de se marier et leur rêve ou leur lune de miel était d'aller dans un endroit hanté. Alors, tu leur avais grassement proposé ça pour... arriver à leur souhait. Alors, quand on avait fait ça, je me souviens, on avait passé la nuit là, on avait dormi dans la place avec ce couple-là. On avait eu quelques activités pendant la nuit. On l'a fait par nous-mêmes dans le temps. C'était moi, toi, puis Isabelle. On avait passé de la nuit complète dans le sanatorium. On avait attendu des portes claquées, du monde courir. Bref, je peux me souvenir des fois où juste faire la recherche qui a été faite sur ça, aller chez les frères, chercher l'information chez les frères. Est-ce que beaucoup de personnes pas beaucoup de personnes, mais certaines personnes disaient que on devait faire notre travail de recherche, mais ce travail-là de Saint-Claude, on l'avait fait comme solidement. On avait formé des groupes là aussi. Tous des beaux souvenirs comme ça qui me reviennent à la tête, bit, de comme ça. Le côté un petit peu plus triste, si on veut. Ben, c'est quand même des souvenirs, mais ils sont un petit peu plus tristes. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la détérioration des lieux. Comment ça avait été saccagé, le monde. Oui, dans un sens, on était content qu'il y avait du monde qui allait enquêter là pour essayer de trouver des réponses puis tout ça, mais d'autres personnes allaient là pour les mauvaises intentions. Soit ils allaient là pour le thrill d'avoir peur dans une place comme ça, ou sinon l'autre chose, c'était carrément juste pour saccager puis faire du vandal. Tu peux en témoigner toi aussi, Pat, comme moi. On a vu la place partir d'une belle place pour pouvoir enquêter, et une belle place avec de l'histoire, carrément là, une place là qui ressemblait à un site, excusez-moi l'expression, là, c'est pas pareil, mais comme la Deuxième Guerre mondiale, tellement que le monde avait détruit les fenêtres, les meubles avaient été jetés par les fenêtres, etc. Alors, c'est... Ce côté-là me déplaisait pas mal. Dans les derniers temps où qu'on enquêtait là, souvent on devait arrêter les enquêtes parce que il y en avait un au deuxième étage qui était en train de casser tout avec sa barre de fer. Je me souviens même de ce groupe. moi-même de personnes que je vais apporter moi de, moi là-bas à Saint-Cloud. Il y en a un qui s'est présenté avec son sac à dos, avec sa barre de son sa grosse clé anglaise, mais tu sais, format géant pour les Tonka, là, les trucks Tonka, pour lui, dans sa tête, il s'en est tout cassé, puis il l'a carrément dit, il dit, ouais, moi, m'en viens saccager une coupe d'affaires, là. Alors, je l'ai, tu sais, j'ai demandé de partir. Le monsieur est parti, il est allé dans un autre étage, il a commencé à casser, il a fallu corriger, puis des intervenants viennent retirer le monsieur des lieux, là, parce que c'était comme ça. En dernier aussi, l'état des lieux, tu sais, comme, on sait tous, là, que ça coûte une fortune pouvoir démolir ou reconstruire quelque chose sur le site. Ça fait que Rocher faisait son mieux avec les frais qu'on payait à l'entrée pour essayer de remonter des sous, soit pour rénover ou arriver avec un autre projet. Puis, au fil du temps, la bâtisse a commencé à se détériorer. Ça devenait dangereux. On l'a vu... On l'avait vu, nous autres, même Pat, je sais pas si tu te souviens, le mur en bas à cafétéria, il était rendu quasiment à 60 degrés, là, qui était penché, puis un manis a tout lâché. Je me souviens aussi d'avoir rattrapé, en apportant les membres là-bas pour leur parler, de l'historique, leur faire vivre une expérience paranormale. Je me souviens d'être à un endroit en bas au sous-sol, puis l'eau me coulait sur la tête. Ce que je réalisais pas, c'était que c'était de l'eau contaminée. J'ai eu des champignons noirs dans la gorge. J'ai eu des problèmes de santé pendant quasiment 2 semaines de temps en dernier. C'est parce que j'ai fait une dernière enquête. La date m'échappe exactement. J'avais fait une dernière enquête. Je vais appeler ça comme mon champ du signe de Saint-Cloud, puis j'ai mis un terme à Saint-Cloud pour justement ça, là. Le monde avait tellement saccagé la place que c'était dangereux. Il y avait des morceaux de fer qui dépassaient, des morceaux de broche qui sortaient du plafond, qui risquaient de tomber sur la tête avec des morceaux de ciment. Alors, dans ce cas-là, je suis parti, puis dernièrement, j'ai vu que tu étais retourné sur le terrain à pouvoir enquêter de tout ça, puis ça m'a rappelé quelque chose, tu sais, en me disant, tu sais, que peut-être que ça serait le fun aussi, tu sais, que peut-être aller faire un dernier tour avant que la bâtisse soit vraiment en terre, qu'on voyait pas. Je parle pas de rentrer dans la bâtisse, c'est pas sécuritaire pour faire ça, quoi que ce soit, mais juste être sur le terrain. Le terrain est timide. Le terrain, à toutes les fois qu'on était là, on a tout le temps eu de l'activité sur le terrain aussi. L'endroit est teinté. On connaît l'historique du curé qui est tombé, de la sœur qui a supposément été poussée par la fenêtre du deuxième étage pendant qu'elle était enceinte. L'employé qui s'est suicidé. Le petit garçon qui s'est noyé dans la piscine. Etc. Il y a beaucoup d'empreintes d'historique sur les places, des chalets en arrière où ce que il y a des légendes qui seraient arrivées des choses. Alors, ce que Roger essaie de faire, le projet, peut-être de permettre au monde de pouvoir quand même aller sur le terrain. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment cool. Tu sais, ça ramène des vieux souvenirs, ça ramène tout le temps. Des places comme ça, c'est vraiment unique. Saint-Claudie de Horton, pour moi, au Québec, pour le moment, puis j'enquête depuis un bon bout là sur le terrain puis tout ça, mais pour moi, là, pour le moment, Saint-Claudie est encore dans mon top 3 au Québec des places. Je te dirais dans mon top 10 des places au Canada que j'ai eu l'occasion d'enquêter. C'est quand même un bel endroit d'historique, tout ça. C'est juste plate que on perd tout le temps des morceaux d'historique comme ça, des morceaux d'histoire ici au Québec comme ça, là. Mais malheureusement, faut faire avec le temps des fois, et des fois ça coûte des sous, du financement puis tout ça pour garder des bâtisses comme ça. Dans ma tête à moi, je pense que ça vaut la peine, mais malheureusement... Je suis juste une petite personne dans la société. Alors, c'est ça, Pat. Des souvenirs, de, comme je dis, j'en garde des bons, j'en garde des mauvais. C'est sûr que j'essaie de garder des meilleurs souvenirs que j'ai, mais on a tellement eu de belles soirées à enquêter, des belles preuves qui sont sorties de Sainte-Claudine-Lauerton, puis que je te dirais qu'ils ont permis de lancer un peu beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes qui ont commencé comme ça avec Sainte-Claudine-Lauerton au Québec. Est-ce qu'il y a des, tu sais, puis sans jouer aux vedettes, sans, tu sais, sans être fantasme puis tout ça, est-ce qu'on serait les premiers précurseurs à avoir poussé le monde à enquêter là? Il y en a qui vont dire qu'ils enquêtaient là avant, j'ai enquêté là avant à pas, j'ai enquêté là après à pas, mais je parle d'une question là, tu sais, d'être là régulier. Il y a des personnes là qui vraiment il avait pris un abonnement saisonnier là, je me souviens des noms, pour en nommer quelques-uns, Frédéric Reeves, malheureusement qui est décédé de là, mais c'était un habitué, il allait là souvent. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire aussi, hey, pourquoi vous enquêtez souvent les mêmes places, parce que des fois on a des réponses qu'on n'est pas capable tout le temps de comprendre ou de mettre un point sur les i ou une basse été, ça fait qu'on retourne parce qu'on a d'autres questions, mais en même temps, ça rapporte d'autres questions. C'est un cercle qui tourne. Alors, c'est ça. Saint-Claudine, comme je dis, j'ai beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs personnels, mais beaucoup de souvenirs, comme je dis, que d'avoir rencontré un paquet de monde, des membres, d'autres équipes, etc. Fait que, c'est ça. Fait que je voudrais te remercier, Pat, de m'avoir permis de témoigner un peu sur Sainte-Claudine-Lauerton. Je vais te souhaiter une excellente fin de journée, ainsi à tes membres. Et puis, on se reparle bientôt de projets paranormaux et d'autres sujets sur ça. Salut la gang!
Merci à toi, Dom. Comme je le disais dans le passé des autres émissions, Dominique Desormeaux, c'est celui qui a gardé vraiment... comment je dirais ça, le plus de son temps à être impliqué dans le milieu du paranormal. Et à chaque semaine, il y a des projets, il y a toujours des nouvelles idées, il met ça en place. Je sais qu'il travaille dessus une web-série. Moi, j'ai plus cette énergie-là, puis vraiment, sérieusement, je lève mon chapeau. Puis on s'est pas parlé avant... qui m'envoie son enregistrement. J'ai juste dit, OK, Dom, t'as le feu vert, raconte-moi quelques trucs, rappelle-moi tes expériences sur Sainte-Claudine-Lauerton, vu que j'en parle depuis le début de l'émission, là, l'histoire du passé et de la façon que ça va se terminer. Tout le monde a le même sentiment, puis Dom, comme je vous dis, sans qu'on se soit parlé, a décrit les mêmes choses que moi, les expériences qu'il y a eues quand on a dormi là, la petite fille, comme j'ai déjà raconté, qui était entre nous deux, qui avait dit help me, qui demandait de l'aide. Puis pendant que j'écoutais son segment, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête. C'était la troisième ou la quatrième fois qu'on allait à Saint-Claude, puis au lieu d'aller dans la bâtisse, on était allé dans un des petits chalets. Je sais pas si Dom s'en souvient là. Il y avait moi, Isa, Dom. On avait une Ghost Box, puis on avait un Ovilus. Moi, à l'époque, j'utilisais soit des petits bonhommes ou de la musique le plus possible qui datait du moment de l'histoire, quand il y avait de l'activité à Sainte-Clotilde. Et je me souviens, une nuit, j'avais mis du Elvis Presley. J'avais fait jouer une chanson, je m'en souviens pas laquelle, là, mais ça avait duré une trentaine de secondes. Et là, j'arrête la musique, et là, je demande, est-ce que vous avez aimé ce personnage qui était vivant à votre époque? Et je vous le jure, sur la Ghost Box, ça a pris à peu près 2 minutes entre les deux réponses sur la Ghost Box. Ça avait dit Elvis Devil, ok, ça avait dit Elvis Devil. Et sur l'Obulus, lui, il y a une limite de mots, ça fonctionne avec les champs électromagnétiques, et ça avait écrit King. Donc, dans le temps, on pouvait pas savoir en quelle année, là, d'où venaient les PVE, mais à ce temps-là, Elvis était un petit peu perçu comme le diable à cause de son déhanchement, puis tout ça, ceux qui ont vu le film, là, vont comprendre un peu. Et ceux qui connaissent l'histoire, moi, j'ai grandi dans une famille où Elvis était très important, puis j'en entendais beaucoup parler. Et effectivement, Elvis était vu un peu comme le diable. En passant, comme j'ai dit en début d'émission, j'ai repris contact avec M. Thivierge qui m'a contacté, etc. L'enquête qui a été effectuée. Moi, j'ai eu la permission de donner les informations qu'il faut aux gens qui sont intéressés. Et ça, ceux qui me suivent sur Facebook et surtout sur TikTok s'en ont rendu compte, là. J'en ai parlé beaucoup. J'ai l'autorisation de donner son numéro de téléphone à ceux qui me contactent en privé. Pour si vous voulez aller visiter le terrain, et là, vous avez pas le droit d'entrer dans la bâtisse, si vous contactez M. Thivierge, c'est seulement pour aller faire... Et le terrain est très grand, là. On parle de... C'est très, très grand. Il y a la bâtisse de Saint-Clotilde, qui est très intéressante, ce qu'il y a autour. Vous pouvez faire des belles photos. M. Thivierge va vous raconter l'histoire. Et le terrain est immense. Il y a même un bord de l'eau que vous pouvez aller marcher aussi. Vous emmenez un petit pique-nique, pourquoi pas, puis aller manger. Si vous allez là, votre visite, avec permission, il y aura des frais qui est associé à ça. Monsieur Thivierge, lui, l'utilise afin de pouvoir essayer de restaurer. Et il espère toujours, puis en même temps, mais ça lui donne un petit coup de main. C'est lui qui fait le tour, qui ramasse les déchets, etc. Donc, c'est comprenable. Donc, si vous êtes de bonne foi que vous voulez rentrer en contact avec lui, juste me contacter par courriel appa.paranormal@commercial.com ou tout simplement par les réseaux sociaux, Facebook, vous pouvez me contacter en privé. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous et de vous donner les informations nécessaires pour parler avec M. Thivierge. Donc, on va aller à une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
CJMD 96.9.
What's up tout le monde, c'est Jam C. Manquez pas Rap Sauti chaque lundi 22h sur CJMD 96.9 avec mon collègue Sammy Boy. On présente des nouveautés. On parle d'actualité pop.
Le fameux projet sur quoi Dr. Dre travaille, ça serait sur un album collaboratif entre Snoop Dogg et Dr. Dre.
On reçoit des légendes du rap en entrevue.
Salut B.I., ça va bien?
Yes, salut James, comment ça va, man?
Yes, super, man!
Moi, je sais rien faire d'autre, en fait. Je me lève le matin, je viens ici, je fais des instrus, j'écris, je fais des instrus, j'écris, je clip, je fais des instrus, j'écris, j'enregistre. Voilà, c'est ma vie, c'est ça, en fait. Je ferai ça jusqu'au bout.
Donc, manque pas Rhapsody chaque lundi 22h sur CJMD 96.9, ta radio hip-hop.
Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel,
unique au Québec.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
De retour de la pause, je suis content de vous dire que j'ai Isabelle Deschenaux, la cofondatrice qui est à côté de moi, qui se trouve à être ma femme. Puis là, ben, vous avez pas de vidéo, mais moi, je peux vous dire qu'elle est vraiment belle, puis je suis chanceux parce qu'elle est à côté de moi. Fait que, dans le fond, ben, tu sais qu'on parle de Saint-Clotilde aujourd'hui.
Oui, bonjour tout le monde.
Tes souvenirs, c'est quoi tu gardes de tes souvenirs? Tout qu'est-ce qu'on a fait là-bas, là?
Écoute, Saint-Cloud, là, j'ai juste des bons souvenirs. On est allé tellement souvent, il y a tellement d'épisodes mémorables à se rappeler de là. Mais, regarde, là, des bons épisodes.
Je sais que tu as travaillé fort, juste comme ça, là, tu as travaillé fort. À l'époque, je pense que ça faisait 2-3 accueils qu'on avait été faits. Puis toi, puis les recherchistes qu'on avait à l'époque, à un moment donné, vous avez rentré en contact avec les Frères du Sacré-Cœur.
Je pense que j'étais avec Mélanie, si je me trompe pas. Ça se peut-tu?
Mélanie, puis une autre fille qui était avec la production, les productions FUCA, qui était là aussi.
Oui. On avait été voir les frères. Ils nous avaient montré des photos dans le temps. Ils nous avaient raconté des histoires, puis tout ça. Ouais, c'était vraiment agréable comme rencontre.
Les documents, on les a encore aujourd'hui. Oui. Dans le fond, c'était les plans de la bâtisse. Oui. Où était située la cafétéria. Ouais, c'est ça, la cafétéria, le gymnase, où est-ce que les gens allaient manger, où est-ce qu'il y avait la cuisinière. Et on a encore ça aujourd'hui.
Ouais, ça fait partie vraiment de nos beaux souvenirs. Le Saint-Cloud, écoute, là, on est allé souvent, puis ça fait partie un peu d'appât, là, de notre...
C'est un peu ça, grandi un peu là-bas, là.
Ben oui, c'est sûr.
Mais la première fois qu'on est allé, je pense, c'est en 2010.
Dans ce coin-là, oui, à peu près 2010, dans ces alentours-là. Puis quand on a commencé à aller là-bas, il n'y avait pas grand monde qui allait là. C'était pas vraiment connu. Puis c'est sûr que de fil en aiguille, à force d'y aller, là, il s'est mis à avoir de plus en plus de monde. Fait que c'était un petit peu moins agréable, là, mais quand même, on a vécu des bons moments dans ce coin-là.
On a des bons souvenirs là-bas.
Ouais. Ah, ouais.
Je pense que c'est la place, peut-être avec où est-ce qu'on s'est marié.
Oui.
Le vieux palais de l'Assomption, ça, c'est l'endroit où on a le plus de souvenirs, le plus d'enquêtes qui a été faite.
Oui, bien, c'est surtout qu'on s'est mariés là-bas, c'était vraiment.
Oui, au vieux palais, pas à l'asile.
Non, au vieux palais, ben oui.
Ouais. Moi, j'avais déjà parlé d'un événement qui s'était passé là-bas, quand on était moi, toi, puis Dom au niveau du sous-sol. Puis toi, je t'avais entendu crier, j'avais été.
Oui, j'avais eu une espèce de gros ombrage noir qui m'était foncé dessus, là. Sérieusement, cette fois-là, j'ai quand même eu j'ai eu un peu peur, là, je te dirais. Là, ouais, c'était comme un gros monsieur, un gros et grand monsieur qui s'est envenu sur moi. Puis, ouais.
C'était comme un ombrage. Tu l'avais décrit comme un ombre noir.
Ouais.
Puis c'était pas un jeu de lumière parce qu'on avait essayé de le reproduire après. Puis on n'avait pas été capable de refaire la même chose que qu'est-ce que toi t'avais
vu. Non, j'avais pas été capable.
Il y a un événement que j'avais parlé aussi, c'est quand on avait été. Avec le Radio-Canada, l'agence QMI, je sais pas si tu te souviens, il y avait Marie-Josée, Eric, Suzanne qui étaient là. Ça, c'était une soirée vraiment où ce que ça nous a propulsé parce qu'à partir du moment où on avait mis l'agence QMI puis Radio-Canada dans nos réseaux sociaux, là, il y a eu beaucoup de monde qui se sont mis à nous suivre.
Ouais, c'est sûr.
Tu te souviens du PVA qu'on avait capté?
Oui.
C'était quoi? James?
Oui, c'était le James, c'était le monsieur qui s'était probablement pendu dans les douches, là. C'est ce qu'on avait entendu parler.
On
était avec les reporters, puis c'était assez impressionnant comme épisode. Ouais.
Mais de toutes les fois qu'on avait été, moi, je pense que c'est celui-là qui me l'a plus impressionné parce que on avait du monde. Ben, il y a eu beaucoup de séquences, mais on avait du monde, entre parenthèses, crédible. Parce que l'agence QMI, c'est quand même une agence qui est sérieuse. Hier, je suis content, on a passé au sac de chips. Mais si on compare l'agence QMI et le sac de chips, c'est sûr qu'avec l'agence QMI, t'as beaucoup plus de crédibilité. Donc, puis il y avait Radio-Canada qui était là. Les deux avaient vécu quelque chose. Moi, je me souviens, les deux avaient été impressionnés puis nous avaient remerciés. Puis ça, c'est des séquences qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube.
Oui.
Les deux avaient vraiment trippé.
Oui, c'était assez impressionnant. Écoute, j'en ai plein d'histoires à raconter.
J'ai déjà parlé dans le premier segment du moment où ce qu'on était au troisième, le dernier étage, avec moi, toi, Dom, encore, parce que dans le temps, c'était ça, là. Et puis toi puis Dom, vous aviez vu une espèce de forme blanche qui avait été direction les ascenseurs. Moi, je l'ai pas vu, mais toi, Pidum, vous l'aviez vu.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est quoi qui s'était passé?
Ben, c'est une espèce de d'ombrage blanc qui était passé assez vite.
Dom était parti à courir pour aller voir.
Dom est assez expressif, fait que c'est sûr que lui...
Parce que moi, je me souviens de vos visages que vous aviez, et moi, j'étais comme occupé.
Ouais, ça fait longtemps.
Puis les deux, en même temps... Ah, mais ça, c'est en 2011, je pense, quelque chose comme ça.
Oui.
Autre séquence aussi que je me souviens, on était avec les gars de l'émission Roule Trip dans la salle, la pièce, où ce qu'on avait capté dans nos premières enquêtes, la voix d'une petite fille.
Oui.
Puis il y avait déjà une médium qui nous avait dit, si tu vas dans cette place-là, ça n'a pas rapport avec l'asile,
non,
ça a rapport avec la maison qui était là à l'époque.
Oui, je me rappelle, oui.
Il y avait beaucoup de peine qui était ressenti dans cette pièce-là. Puis toi, durant l'émission Roule Trip, t'avais demandé à la petite fille de répondre, tu savais que c'était dur. Puis finalement, on avait entendu sa voix, puis je me souviens la réaction des gars.
C'est-tu la fois que ce qu'on avait filmé, il te donnait la main, là?
Non. Ça, non,
c'est dans la même pièce, hein?
C'est dans la même pièce. On a vécu quand même beaucoup de choses dans cette pièce-là.
Ouais, ouais.
L'émission Road Trip, je me souviens, dans le tournage, le gars, quand on avait entendu la voix de la petite fille, les deux gars se sont virés puis ils nous ont regardés. Les ouais. autres ne s'attendaient pas à ça. Là. C'était vraiment un événement marquant, là. Mm. Tu te souviens?
Oui, oh, oui, je me rappelle, ben oui.
Puis toi, est-ce que tu parles? J'en ai parlé aussi. C'est la fausse que Dom était dans le cadre
de la
porte.
Tu es assis sur une caisse de bois, puis tu tends la main, puis il y a une entité qui vient de toucher la main. Ouais. C'est dans la même pièce que la petite fille. Elle venait de où, cette petite fille-là?
C'était à l'époque où c'était un fermier qui habitait sur cette terre-là. L'année exacte, j'ai pas ça entre les mains, mais lui avait adopté des enfants. Il y avait plusieurs enfants qui étaient là. Okay. C'était comme un petit manoir. J'avais déjà mis des photos sur notre page Facebook. Là. Mm. Puis ça, c'est plusieurs années avant l'arrivée là, de la bâtisse de l'asile Saint-Clotilde d'Horton, qui, elle, a été construite dans les années 60, si je ne me trompe pas. Là.
OK.
Puis la petite fille, elle avait rapport avec certains décès qui avaient lieu dans le petit manoir, dont trois personnes qui étaient décédées dans un incendie qui aurait été fait, dans le fond, par des jeunes qui fumaient la cigarette
en cachette.
Ça avait déclenché un feu. C'est bizarre parce que ça, j'en ai déjà parlé aussi. C'est le même événement qui est arrivé en 88.
Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Deux fois le même événement dans la même bâtisse, c'est vrai que c'est assez impressionnant.
Puis pas rien que ça, il est arrivé ces deux incendies-là, mais quelques semaines après l'incendie de 88, il y a un autre feu qui a été déclaré, mais cette fois-là, il n'y avait plus personne dans l'édifice. C'était comme si c'était prédestiné, dans le fond, à mourir l'édifice, dans le fond, dans les années 80, en 88.
Oui, exactement.
Je sais pas si tu te souviens de l'événement qu'on avait créé. Je me rappelle pas l'année, mais on avait invité une vingtaine ou une trentaine de personnes à l'asile. Il y avait Louise qui était là. Elle est décédée aujourd'hui, là.
Ouais.
Puis on avait recréé, dans le fond, l'événement où ce que...
Avec les sirènes, puis tout le
truc
qu'on avait fait. On avait amené des petits autobus, des journaux, puis on avait fait des sirènes de feu.
Tu te souviens comment ça s'était passé, cette fois-là?
Oui, oui, oui.
Comment tu avais trouvé ça?
Ah, c'était le fun. C'était impressionnant, là. C'est sûr que... C'est ça. Écoutez,
oui,
c'est ça.
Oui, en tout cas, je garde des bons souvenirs de cet événement-là. Premièrement, Louise Racine était là parmi nous. Il y avait beaucoup.
C'est des beaux souvenirs.
Il y avait, faudrait que j'essaie de les retrouver puis de les publier.
J'ai hâte de voir ce qui va venir de cette bâtisse-là.
Ben, si on croit ce qui est dit en ce moment, il y a quelqu'un qui est intéressé à acheter la bâtisse, mais c'est pas fait.
Non, je pense que ça va finir démolie.
Parce que si jamais ça change demain, le gouvernement, la ville est obligée de recommencer le processus à zéro.
Ouais.
Donc, ça donnerait quelques années encore au nouveau propriétaire à essayer de sauver la bâtisse. Mais on a vu l'état des lieux, là. Il y a beaucoup d'argent à investir. Puis sinon, s'il n'y a rien qui est fait, s'il n'y a personne qui s'intéresse au projet de M. Thivierge,
j'ai bien peur que ça va être démoli.
En décembre, c'est supposé être en décembre la démolition. Puis si moi, j'aimerais ça être présent, si jamais ça se fait, là, j'aimerais ça tourner les dernières images de la bâtisse avant qu'elle soit mise à terre. Là.
Je serais curieuse de voir après ce qui pourrait se passer.
Il va y avoir un après, parce que tu sais, comme moi, les enquêtes qu'on a faites, oui, on capte des choses des fois qui semblent être des entités intelligentes, mais des fois, on capte des choses que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de faire.
Il y a tellement de résiduels, c'est sûr.
Ouais, exactement, le résiduel. Donc, je pense que il va y avoir un peu des deux. À le moment de la démolition, je pense pas qu'on puisse y aller quand tout va être à terre parce que ça va être dangereux.
Oui, oui.
Mais d'un coup que tout ça va être ramassé.
Mais si ça se transforme genre en terrain de camping ou quelque chose comme ça, écoute.
Il y a déjà un terrain de camping sur l'endroit.
Oui.
Mais c'est ça, je parlais d'un début dans le premier segment. Peu importe, même si c'est sûr que c'est moins impressionnant que la bâtisse ne soit plus là.
Oui.
Parce que c'est quand même prestigieux, tu arrives devant ça, c'est impressionnant. Mm. Plus de bâtisse, c'est pas grave. L'histoire est sur place. Il y a l'énergie qui est enregistrée dans le lieu.
Les empreintes
du passé sont encore là. Donc, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que les entités intelligentes vont être conscientes que la bâtisse n'existe plus? parce que là, il y a plus cette espèce de coquille qui va les renfermer sur place. Fait qu'est-ce que ça va aider ceux qui sont coincés là à s'en aller vers la lumière? Je sais pas. Peut-être.
Écoute, on fait ce passe-temps-là justement pour parce qu'on se pose des questions puis on veut avoir des réponses, mais j'ai bien l'impression qu'on n'aura jamais de réponse. Ouais. On va toujours se poser des questions, puis écoute, peut-être qu'un jour, on saura, mais...
Comme je dis depuis le début, depuis qu'on est là-dedans, quand on a commencé, c'est parce qu'on voulait des réponses.
Mais oui.
On avait beaucoup de questions, mais depuis qu'on a commencé, on a encore plus de...
Encore plus de questions
que de réponses.
Mais oui.
Donc, il faut aimer le paranormal, parce que sinon, tu restes pas longtemps.
Fait, probablement qu'on y retournerait un coup que ça serait démoli, ou un coup
c'est
que
dans
ça
serait mes
probablement
intentions.
Autre chose, ou je ne sais pas quoi, là.
C'est dans mes intentions.
Oui, ça serait bien.
Pour Sainte-Clotilde d'Horton, qu'est-ce que tu aurais d'autre à ajouter?
Je me souviens tellement d'épisodes, là. Écoute, on était allés, je me rappelle une fois, c'était en plein hiver. Je pense qu'il faisait moins 40. Incroyable.
Ben, moins 40 dehors, mais moins 50 en dedans, je pense.
Ah oui, c'était fou, là. Puis toi, comme quelqu'un
de calme.
Très intelligent, t'as décidé de venir en running shoe.
Ouais, je me souviens.
Puis Dom, il a dit, ben oui, pas de problème, on va y aller. Fait que son char est resté pris dans la neige. On aura de la neige jusqu'à moitié des portes.
Ouais.
Oh, t'avais les pieds gelés. Écoute, je me rappellerai toute ma vie de cette histoire-là. Je pense que même que sa batterie de char avait lâché.
Ah, ça avait été compliqué, ce soir-là.
Ça, c'était un autre épisode. Puis là, t'avais les pieds gelés et j'étais obligée d'aller chercher des sacs. Prendre tes pieds.
T'as trouvé des sacs dans l'asile.
Dans l'asile, j'ai mis tes pieds en dessous de mes bras pour les réchauffer, mais c'était débile, là.
J'avais de la glace à la place des pieds.
Je pense que j'ai jamais souffert autant de ma vie pendant une enquête. Puis, après, là, écoute, il y avait un autre épisode d'homme, il n'y avait plus de batterie dans son char. Son char, écoute, là, c'était pas terrible dans ce temps-là.
Non, mais gars, cette séquence-là, je me souviens, c'était pas très loin de Sainte-Clotilde, c'était au cimetière Maplewood.
Oui.
Puis, la batterie avait juste décidé de lâcher. Heureusement, on avait quelqu'un qui était avec nous. C'était Jean-François D'Amato.
Oui, exactement.
Les autres étaient partis de là, de Maplewood. Ils avaient cherché un garage pour aller chercher des
câbles à booster.
Puis moi, plutôt, on était dans le char en train de geler.
Geler comme des caves. Écoute, je pense que c'est à partir de là qu'on s'est dit, plus jamais qu'on va faire des enquêtes comme ça, improvisées en hiver, puis être mal organisées. Puis, c'est vrai qu'on n'était pas bien organisé. C'était quand même dans nos débuts, ou pas si pire. Ça faisait quelques années, mais...
Ouais. Écoute, on a pris l'expérience.
À partir de là, on s'est mis à dire...
Du linge de rechange.
S'il fait froid, on n'y va pas.
J'ai commencé à mettre des bottes. Oui. Dans les dernières vidéos là, de Sainte-Clotilde, j'ai toujours des bottes d'un pied.
Oui, ça
avait pas de sens. Cafetière, génératrice, des tables, des chaises.
Oui, oui.
Et on s'amenait quand même un minimum de confort.
Mais au début, c'était zéro confort, là.
Des couverts.
C'était vraiment
parce que des fois, il faisait froid, fait qu'on se mettait une chaise qui se dépliait, une couverte, et on s'assoyait, puis on se réchauffait, dans le fond.
C'est
un souvenir qui...
C'était pas très, très, très agréable. Hey, on a poussé le char. Moi, je me rappelle, j'avais conduit, toi puis Dom, vous poussiez en arrière.
Ouais.
C'était pas drôle, là. C'était pas drôle.
Mais quand t'es passionné, tu fais ton activité jusqu'à... Tu le fais à fond, là.
Ah ouais,
c'est ça qu'on faisait. C'est ça que je disais tantôt. Moi, j'ai déjà été comme ça. J'étais à fond. Dom est toujours comme ça. Oh, j'étais intense. Tu te souviens quand on arrivait de là, ou peu importe, l'enquête?
Oui.
Moi, on restait dans l'autre maison. Moi, j'avais mon bureau qui était comme au sous-sol.
Oui.
Je me levais le matin, j'allais me chercher un café. Je rentrais dans mon bureau, puis je faisais de l'analyse toute la journée. Toute la journée. Puis là, ben, une journée ou deux après, ben là, je mettais des vidéos sur YouTube de l'enquête qu'on avait fait.
Puis
c'était pas mal ça. On mettait beaucoup de temps. Beaucoup plus.
Oui. Mais c'était des temps difficiles. Je me rappelle d'une autre fois, ça a été pas mal plus agréable. On s'était monté des tentes dans l'asile.
Ouais.
On avait passé la nuit là, mais là, c'était en été. C'était pas si pire. C'était vraiment le fun, là.
Ouais.
Ça, j'ai bien aimé ça, ce soir-là.
Ben, en fait, je pense qu'on a dormi deux fois
deux
là.
Deux fois, on avait monté les tentes, puis on avait...
Une fois, on était moi, toi, Dom. On avait chacun nos tentes. Dom, il avait sa tente. Nous, on était dans une autre tente.
Puis on partait chacun notre bord seul, là, sur Nowhere.
Donc, c'était cool.
Le fun, là.
J'ai encore des photos de ça. Puis cette nuit-là, quand on avait dormi là, il y avait quelque chose qui nous avait réveillé, une espèce de bang. Puis on s'était réveillé, puis on avait comme entendu, je sais pas si c'était un battement d'ailes de pigeons ou quelque chose en même.
Le matin,
mais
là.
Ça faisait comme des petits bruits de pas à terre. Puis on a toutes sorti de nos tentes, mais quand on a sorti, les codeurs réagissaient beaucoup.
C'est vrai? Oui.
Puis dans ce temps-là, ben les téléphones, on savait qu'il fallait les mettre en mode avion ou les éteindre simplement, parce que sinon, c'est sûr que ça pouvait interférer. Là.
Ouais.
Puis l'autre shot, c'est qu'il y avait deux personnes qui s'étaient mariées, puis c'était leur lune de miel. Je sais pas
si
tu te souviens.
Ah oui, mon Dieu! Ah oui, tabarnouche! Ouais. Puis je pense que c'était celui qu'on a vu dans l'épisode avant que je pense que tu as mis une vidéo sur TikTok. Hey, en passant, venez nous voir, TikTok, oui. YouTube, Facebook, on est partout, là, nos épisodes sont partout.
Oui, j'ai déjà fait l'annonce, puis TikTok, c'est vraiment la grosse
affaire. C'est génial, ben oui. Puis justement, ouais, c'est ça, un couple, puis c'était leur...
C'était leur lune de miel.
Leur cadeau de mariage.
Ils voulaient passer leur lune de miel avec nous.
Ils étaient venus passer la nuit avec nous.
Oui, ça,
il y avait leur tante, eux autres aussi, puis c'était spécial.
On a rendu un couple heureux, en tout cas, je me rappelle qu'ils avaient été vraiment contents.
Oui, c'est spécial. On a-tu encore des images de cette...
Sais-tu quoi? Il y a beaucoup d'images, ça, j'en ai déjà parlé.
Qui ont disparu, hein?
Ben, pas disparu, c'est qu'à l'époque, moi, l'intelligent, j'avais seulement qu'un disque dur, puis dans ma tête, mon disque dur était éternel. Je pensais pas qu'il était pour se briser. Puis un jour, j'ai voulu aller chercher des informations sur ce disque dur-là, qui se trouve à être les trois premières années d'enquête qu'on a fait, puis finalement, il était décédé. Fait que depuis ce temps-là, j'ai deux disques durs de 8 Tera, puis ça, c'est des disques durs
de bureau. On a même un coffre-fort avec
un disque dur, il y a 8 gigs. Non, pas 8 gigs, 8 Tera, je m'excuse.
Ouais.
Et les deux autres, c'est 4 Tera. J'ai trois disques durs portables de 4 Tera. Puis, sérieusement, j'ai des archives aussi qui sont mises sur YouTube, qui sont pas disponibles, qui sont, dans le fond, en privé. Fait que si jamais j'ai des disques durs qui lâchent, ben j'ai les informations qui sont là sur YouTube.
Oui, une chance, parce qu'on a perdu beaucoup d'enquêtes à cause de ça.
Le sanatorium du Lac-Édouard, j'ai très peu d'images. Mais j'en avais quand même un peu de côté.
Ouais.
Mais j'ai perdu, 100 gigs.
Nos premières enquêtes du début d'APO, il y a quoi, 14 ans à peu près?
Ouais.
Combien de temps?
2006.
Ouais.
16, 17, 18, 19, 20, ça va faire 17 ans, Chris.
Colline, on a des images, Colline, c'est quoi? Je me rappelle de notre première enquête, t'en rappelles-tu?
Ben, on se pratiquait, là.
Oh oui!
Cimetière,
mais te rappelles-tu la maison sur le bord de l'eau, sur l'île?
Ça appartenait à un monsieur Le Boutillier.
Oui.
Puis c'était un gars sur la rue qui était venu nous voir.
On filmait avec nos cellulaires, là. C'était vraiment nouveau, là.
On avait un détecteur de champ électromagnétique que j'avais pogné sur Kijiji.
c'était...
Puis...
c'était n'importe quoi, mais c'était vraiment nouveau.
On se pratiquait. Puis j'avais fait venir des équipements, puis on avait été se pratiquer sur cette île-là, parce que ça se trouve à être sur une île qui est pas loin de chez nous.
Ouais.
C'était très cool. Puis ça, j'en ai déjà parlé. Il n'y a pas d'école du paranormal. On a appris sur le terrain, puis ce qui nous a motivés, c'est les émissions qu'il y avait, qui venaient des États-Unis. Oui. C'est sûr que là, on a réalisé avec le temps que, OK, pour une cote d'écoute, il faut que tu inventes des phénomènes paranormaux. Mais nous autres, on s'est pas associé à ça. Ça nous a juste motivés pour aller sur le terrain, pour essayer de comprendre comme eux autres. Sauf que, on a créé APA, comme j'ai déjà dit, APA paranormal n'était pas supposé devenir une grosse organisation.
Non.
Puis c'est du monde, il y avait des sceptiques, il y avait du monde dans toutes sortes de domaines, et non des tourneaux d'hot dog, comme certaines personnes disent.
Non, c'est pas grave.
Dans des techniciens en électronique, des infirmiers, des pompiers.
Non, oui.
Il y a beaucoup de monde dans divers domaines qui
plein
se sont
avec des métiers
accrochés à nous.
Là,
oui,
c'est ça.
Puis il y a du monde, au fil du temps, tous ceux qui ont fait partie d'APA nous ont aidés à grandir. Puis aujourd'hui... Oui, on est pas mal moins actifs, comme membre actif. Il y a moi, Isa, il y a Alex qui est là. Mais tu sais, si jamais on a besoin, il y a toujours Marie-Josée Lamoureux qui est là. Il y a toujours Éric Chicoine. Il y a toujours Suzanne Chenard qui est là. Il y a Mélanie Leclerc qui est toujours intéressée aussi. Puis je pense qu'éventuellement, elle va revenir.
Elle est rendue loin, je
recherchiste. Non, mais la dernière conversation était encore intéressée.
Ouais.
Il y a Marie-Claude aussi qui était une bonne enquêtrice.
Oui. Mais elle a eu des petits bébés.
Oui, mais t'es encore là pareil. On est toujours bien entouré.
Oui.
Puis il y a des prospects qui veulent donner un coup de main à APA. Donc, je pense pas que APA va mourir. Si jamais on décide de prendre notre retraite ou peu importe, il va toujours avoir du monde autour à qui on peut faire confiance qu'ils vont prendre la relève. Là.
Oui.
Donc, aujourd'hui, je suis content du temps que j'ai passé à parler de Saint-Clotilde d'Horton. Le seul moment que je vais en reparler, c'est le jour où peut-être que ça va être démoli au mois de décembre. Je vais essayer d'aller prendre des images.
Oui, c'est ça.
Ça va être triste parce que, comme vous le savez, j'aurais aimé avoir d'autres personnes. J'ai essayé de parler à EPPI.
Des vieux de la vieille.
Des vieux enquêteurs qui ont tourné là-bas avec des émissions puis tout. Mais tu sais, il manque de temps ou tu sais, je sais pas. C'est pas tout le monde qui veut jaser de leur expérience là-bas.
Ben, même moi aujourd'hui, le gars, tu le sais, je suis pas super à l'aise avec la radio.
Non, mais t'es là quand même.
La plupart du temps, quand on fait des enquêtes, je suis pas tant devant la caméra, mais je suis là tout le temps quand même.
Mais oui.
Mais bon, c'est ça. Fait que
ben, t'es là tout le temps parce que c'est toi qui filmes tout le temps.
Oui, ben, c'est ça. Je suis le temps là quand même, mais. Tu sais, aujourd'hui, je fais un effort pour vous parler parce que oui, c'est pas dans mon. Je suis pas très à l'aise avec ça.
T'sais. Non, mais t'es super bonne.
Ah.
Ben oui, t'es bonne.
C'est pas ça.
Fait que je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Puis
ben,
toi aussi, ma douce moitié.
Mm.
Puis la prochaine émission, j'aimerais.
Pas ta douce moitié, je suis ton complément.
T'es mon complément.
Ouais.
Mais t'es la moitié de mon cœur qui bat.
Oh.
Ah, je suis gentil, hein? Je vais essayer de vous parler dans la prochaine émission de Rivière-la-Guerre parce que ça, c'est un autre lieu qui a été démoli il n'y a pas tellement longtemps. J'aimerais essayer d'y retourner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas retourné. Puis je suis tellement triste que ça soit démoli. Là,
Mais ça va être difficile à trouver parce que.
Non. C'est à côté du cimetière, on va le trouver, ouais. C'est sûr. Donc, puis je vais trouver d'autres sujets. Puis s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne TikTok, ben je vous invite à le faire parce que j'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà sur YouTube et sur Facebook avec nous autres.
Ben oui. Puis si jamais vous avez des idées de sujets ou quoi que ce soit, envoyez-nous des
lieux d'enquête.
Des suggestions. Gênez-vous pas, là. On est tout le temps apte à recevoir les nouvelles suggestions. C'est le fun.
Oui. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Puis on se retrouve... très bientôt. Très bientôt. Merci, bye.
Bye.
Talk rock hip hop.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.